J'aimerais parler sur Joseph devant Pharaon dans Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon : Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph : J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant : Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. On voit Joseph qui évolue dans les responsabilités et qui va se retrouver chef dans sa prison. Parce que le responsable de la prison lui fait confiance et lui confie toute la garde des prisonniers. Et c'est aussi une épreuve quand on est testé dans nos responsabilités en tant que chrétien, parce que la vraie nature des gens va se montrer dans l'exercice des responsabilités. Le pouvoir, l'intervention, la possibilité de diriger, eh bien tout cela fait ressortir la personnalité, de voir si la personne va être proche du Seigneur, si elle va être humble, ou alors si elle va être orgueilleuse et si elle va être imbue d'elle-même. Alors, quand vous confiez des responsabilités à quelqu'un qui commence à faire des choses dans l'œuvre de Dieu, eh bien, cette personne peut se sentir arrivée quelque part et changer d'attitude, devenir orgueilleuse, regarder les autres de haut, donner des leçons aux autres, et puis finalement, elle ne comprend pas que nous devons rester humbles, même si Dieu nous confie de grandes choses. C'est ce qui va arriver à Joseph, qui a eu très tôt des responsabilités, mais qui a su rester humble. Il savait rester humble dans les responsabilités. Il a compris qui il était. Et pour nous, c'est pareil, nous ne sommes que des faibles instruments entre les mains de Dieu. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'artisan qui a son établi avec tous les outils. Et il va utiliser tantôt le marteau, tantôt la scie, tantôt la perceuse, mais ce ne sont que des instruments. Et il choisit l'un, il choisit l'autre, mais les instruments sont à sa disposition. Et finalement, c'est Dieu qui agit à travers nous, les faibles instruments, pour construire sa volonté et faire son œuvre. Alors, Joseph, la particularité, c'est qu'il met toujours Dieu en avant. Et ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Quand il est chez Potiphar, il met Dieu en avant. Dieu bénit la maison de Potiphar et Potiphar lui confie la responsabilité de sa maison et de ses terrains. En prison, il met Dieu en avant. Le responsable de la prison lui confie la garde des prisonniers. Et de même, devant Pharaon, il va mettre encore Dieu en avant. C'est la fin du verset qu'on a lu. Il dit, c'est pas moi qui peut interpréter, c'est pas moi qui va donner l'explication, mais c'est Dieu qui va le faire. Donc toujours, il y a une constante chez Joseph, c'est l'humilité et cette faculté de mettre Dieu au-dessus de tout et Dieu qui dirige tout. Alors, nous savons d'où nous venons, nous ne devons pas oublier qui nous sommes, d'où Dieu nous a tirés pour faire de nous ses enfants, il nous a fait grâce et puis il nous a confié des responsabilités où il nous a confié des tâches, eh bien c'est à nous de le faire dans l'humilité. Le premier point que je voulais mentionner, c'est au verset 9. Je remarque en méditant ce passage qu'il y a un temps de Dieu. Le temps de Dieu au verset 9. « Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Aujourd'hui. C'était le temps de Dieu ici, c'est un tournant dans la vie de Joseph qui va être très important, mais en fait, c'est un temps qui avait été marqué par Dieu et il a été saisi ici par le chef des échansons. Alors, il y a des temps qui sont déterminés par Dieu et ici, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le temps. C'est le moment où il devait parler. Avant, c'était pas encore prêt. C'est pour ça que Joseph ne pouvait pas précipiter ce temps. Il était exclu de la cour de Pharaon. Il était dans la prison. Mais quand vous n'êtes pas encore à la place où Dieu vous veut, mais que vous êtes dans un lieu d'attente, ben il faut patienter jusqu'à ce que, aujourd'hui, jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive et les choses vont s'enclencher. Donc Joseph aurait pu se plaindre. Il aurait pu en vouloir à Dieu. Les choses n'avançaient pas, il était dans la prison, les chansons lui avaient fait une promesse parce que Joseph avait interprété son songe et il lui avait dit « Souviens-toi de moi quand tu seras auprès de Pharaon, quand tu seras dans la cour », mais les chansons l'avaient oublié. Donc, tout ce qu'il a cherché à faire pour s'en sortir par lui-même, il n'a pas réussi et il est resté en prison, les choses ne bougeaient pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir forcer une porte. Il y a un temps où c'est Dieu qui va ouvrir la porte et qui va manifester sa gloire. Alors peut-être on est comme Joseph, on a eu une promesse, les choses n'avancent pas, rien ne bouge, on serait tenté de forcer des portes, d'aller à gauche, d'aller à droite, de chercher des appuis comme les chansons, et puis on est déçu parce que la personne sur qui on s'est confié ne nous a pas aidé, donc vous voyez, on tourne en rond. Parce qu'à un moment donné, il y a un temps que Dieu a fixé ici, aujourd'hui, et quand c'est le temps de Dieu, vous allez voir que les choses vont se débloquer d'une manière surnaturelle. Je pense à Daniel chapitre 2, verset 21, un verset qui confirme la même expérience. Il dit ceci, « C'est lui, donc c'est Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Donc Dieu change les temps et les circonstances. Il l'a fait pour Joseph, il l'a fait pour Daniel, il le fait pour nous. Il y a des temps marqués et on ne peut pas précipiter le temps et ça ne serait pas avantageux pour nous de précipiter le temps. Ensuite, un autre élément que je remarque avec le « aujourd'hui », verset 9, je vais rappeler « aujourd'hui », mais c'est une personne qui parle, donc il y a aussi des personnes qui sont déterminés par Dieu pour intervenir en notre faveur. Ici, c'est les chansons. Et lorsque Joseph était en prison, il a côtoyé cet échanson. Alors, c'est vrai que Joseph était en prison, c'était un moment difficile. Il ne pouvait rien faire pour sortir de la prison lui-même. Mais la connexion avec cet échanson va porter du fruit. Pas tout de suite. C'est-à-dire que les choses se sont passées moins rapidement que ce que Joseph avait envisagé, mais néanmoins, cette rencontre dans la prison entre Joseph et cet échanson va porter du fruit. Joseph a été fidèle dans des petits services. Il a continué à louer Dieu, à prier Dieu dans la prison. Et finalement, en interprétant les songes, c'est-à-dire en faisant ce que Dieu lui avait donné, c'était son service en quelque sorte, c'était sa tâche, il interprétait les songes, même dans des circonstances défavorables. Eh bien, il y a cette constance chez Joseph, c'est qu'il n'a jamais reculé devant les services, les tâches qui lui étaient confiées. Il a servi avec constance. Et parmi les contacts qu'il a eus dans la prison, il y avait cette chanson. Et les chansons, c'était la bonne personne que Dieu a mis sur sa route pour le faire sortir. Donc, il ne le savait pas encore, mais cette chanson va être déterminant pour la suite de sa vie. Et puis, on le voit dans la parole que Dieu envoie des personnes qui vont être déterminantes dans notre vie. Par exemple, Nathanaël. Nathanaël a rencontré Philippe et Nathanaël a parlé à Philippe de Jésus. Donc, Philippe a été orienté vers Jésus parce qu'une personne a été pour elle comme un carrefour. On le voit pour Paul. Paul qui a rencontré Barnabas, et Barnabas va être pour Paul un élément qui va lui permettre de rencontrer les apôtres et de commencer son ministère. Donc tout cela, ce sont des personnes que Dieu met sur notre route et qui nous permettent de faire la volonté de Dieu alors que la situation est peut-être défavorable à ce moment-là, comme pour Joseph dans la prison. Mais cette rencontre n'était pas fortuite, elle n'était pas le fruit du hasard, mais c'était une bénédiction que Dieu mettait sur le chemin de Joseph. Et Joseph, en fait, sans le savoir, il prépare sa sortie de prison. Maintenant, il faut accepter le temps de Dieu parce qu'on ne peut pas accélérer les choses quand Dieu a dit « Attends ». Là, manifestement, Joseph devait rester encore en prison un certain temps. Il devait encore patienter. Donc, le mieux pour nous, quand les choses n'avancent pas, c'est de se caler sur le timing de Dieu et de prier pour qu'il manifeste sa puissance, sa gloire en son temps. Mais on ne pourra pas forcer Dieu à agir plus vite ou plus tôt. Joseph aurait bien voulu. Il aurait été très heureux de pouvoir sortir plus tôt, mais Dieu avait son temps. Et je pense qu'on ne pourra pas être ni heureux ni épanoui si on veut forcer les choses et si on ne se cale pas sur le temps de Dieu. Il y a des saisons. Encore aujourd'hui, il y a des saisons. Voilà, on est en hiver. En hiver, il fait froid. Des fois, il neige. Ben voilà, c'est normal. C'est la saison qui veut ça. Et on ne peut pas accélérer l'hiver pour sortir de l'hiver. Il faut que l'hiver passe. C'est une saison à passer. On aimerait bien déjà être au jour plus chaud. Alors, si on se plaint, si on traverse mal l'hiver, ben, c'est une saison. Et il y a des saisons dans la vie chrétienne. Il y a des saisons. Il vaut mieux les accepter. Il y a des fois l'hiver. Des fois, c'est le printemps. Des fois, l'été. Voilà, des fois, l'automne. Ça tourne. C'est les saisons de la vie chrétienne. Et ça, on ne peut pas les changer. Elles font partie de notre parcours. Le mieux est de les accompagner, de les traverser, en restant dans la reconnaissance, dans la foi, dans la louange, et accepter même les inconvénients d'aujourd'hui, sachant qu'ils sont porteurs de bénédictions pour demain. Ecclésias chapitre 3, verset 11, dit ceci, en parlant de Dieu, bien sûr. Dieu, il fait toutes choses belles, en son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est le temps de Dieu. Et même si ça paraît long, c'est le temps de Dieu. Même il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bien nous, souvent, nous sommes dans ces saisons, comme l'hiver, saison froide, saison difficile, peut-être avec des tempêtes, et nous ne comprenons pas les tenants, les aboutissants. Parce que c'est Dieu qui connaît le début et la fin. Nous ne pouvons pas saisir. Nous devons juste faire confiance et traverser. Joseph ne pouvait pas comprendre pourquoi il n'était toujours pas sorti de prison, Mais en tout cas, il s'est confié en Dieu et Dieu l'a sorti au moment où il voulait. Et nous, nous avons juste à attendre le temps de Dieu et lui faire confiance pour qu'il manifeste sa puissance. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre élément, c'est un deuxième point. Après le « aujourd'hui » du verset 9, c'est-à-dire le temps de Dieu, il y a des accélérations, c'est au verset 14. Parce que dès que l'échanson a prononcé la parole « aujourd'hui », je vais rappeler le souvenir de ma faute, il y a une accélération au verset 14. « Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. » C'est-à-dire que Joseph est passé directement de la prison à la cour de Pharaon, mais le même jour. Donc les choses maintenant, c'est comme si Dieu prend le contrôle des choses et maintenant il pousse dans la direction qu'il veut. Et il y a des phases de la vie où il semble rien se passer, c'est comme quand il était là dans la prison que les choses n'avançaient pas. En réalité, si on remonte toute l'histoire de Joseph, ça fait quand même 13 ans qu'il a été vendu par ses frères, qu'il a connu la situation chez Potiphar, qu'il a été en prison. Donc ça fait 13 ans qu'il est dans cette situation inconfortable. Et les choses n'avancent pas. Pendant ces 13 ans, il tourne en rond. Il n'évolue pas bien, les choses se retournent contre lui, il n'y a pas d'avancée dans sa vie. Vendu par ses frères, jeté en prison. Donc des fois dans la vie, on a l'impression, vous voyez, ça n'avance pas, on tourne en rond. Les choses, on aimerait bien évoluer. Et on ne peut rien faire pour changer cela. Eh bien ça, c'est certainement l'école de la patience. C'est une des écoles de Dieu. Il nous fait passer par l'école de la patience. Rappelez-vous combien Moïse a été éprouvé en passant par l'école de la patience. Lui qui voulait de ses mains tuer un Égyptien pour délivrer le peuple, eh bien, il a dû fuir et 40 ans à garder les troupeaux de son beau-père. Ça, c'est l'école de la patience. Et après, il était prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a une école de la patience qui est nécessaire. Joseph a connu cette école-là. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Jacques 5, 7, c'est même dans le Nouveau Testament. Jacques dit, et il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à nous, « Soyez donc patients. » Frères, on peut dire frères et sœurs, « jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Soyez donc patients. Et donc, pour nous, ça nous parle de patience. Patientons jusqu'à ce que Dieu intervienne. Alors, Joseph sert Dieu. Même si tout se retourne contre lui, il sert Dieu et il est patient. Jésus a aussi été accusé à un moment donné d'être un mangeur, un buveur, mais il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Paul a été aussi accusé parfois d'être fort quand il écrit, mais faible en présentiel. À l'époque, ces expressions n'existaient pas. En présence, il était faible. Mais quand il était à distance, en distanciel, il était fort dans ses écrits. Alors, il lui reprochait et il a été patient. Il a été patient. C'est-à-dire que la patience nous fait supporter les désagréments, les caractères difficiles, les difficultés de la vie chrétienne. Alors, on fait sortir Joseph, et c'est là que je vois au verset 14 un contraste complet entre les 13 ans où Joseph, là, tourne en rond, il n'avance pas, et même ça descend, c'est pas bon. 13 ans quand même, il faut vraiment de la patience. Et le verset 14, c'est le jour même, il part d'une situation vraiment basse pour se retrouver au plus haut, à la cour de Pharaon. Le terme traduit ici par « avec hâte », c'est « on le tira précipitamment » ou « on l'amena sur le champ ». Et c'est ça l'accélération de Dieu. C'est que maintenant, quand Dieu a dit « c'est le temps », il n'y a rien qui peut arrêter ça. Même le terme hébreu évoque une course. Alors il est lavé, rasé, vêtu de beaux vêtements, lui qui était dans la prison avec toute la saleté et tout ce qu'il y avait comme environnement mauvais. Il se retrouve devant l'homme le plus puissant du pays, Pharaon. Et Pharaon qui le fait venir pour demander de l'aide. Il va être donc un personnage clé. Quand c'est le temps de Dieu, il y a des accélérations que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas mettre en œuvre. Il était impossible pour un esclave, en plus étranger, c'est-à-dire un hébreu, il est dit, c'est un hébreu, c'est-à-dire du peuple, vous savez, les Égyptiens, ils se prenaient pour le peuple le plus évolué, le plus avancé, et c'était vrai en partie sur le plan technologique de la science de l'époque, c'était le peuple le plus brillant. Donc les Hébreux qui gardaient les troupeaux, tout ça, ils méprisaient. Et c'est un Hébreu qui va se retrouver à interpréter le songe de Pharaon, mais combien d'années il aurait fallu pour qu'un homme aussi bas monte l'échelle des classes sociales pour arriver jusqu'à un homme aussi haut? C'est même impossible. Mais on le voit dans la nature. Vous connaissez cet exemple du bambou. Lorsque vous semez un bambou, eh bien, en fait, vous ne voyez rien, il ne se passe rien. Vous pouvez l'arroser, vous marchez dessus, vous ne voyez rien pendant 1 an, 2 ans. 3 ans, même 4 ans, il n'y a rien qui sort à la surface. Vous pourriez dire, ça ne sert à rien, il n'y a rien qui bouge. En réalité, il est en train de tisser des racines dans le sol, et la 5e année, il sort de terre. Et là, quand il sort de terre, il va avoir la croissance la plus rapide du monde. C'est-à-dire, il croît jusqu'à 1 mètre par jour, et atteint jusqu'à 30 mètres de haut. Donc, quand c'est le temps marqué pour lui de sortir, il y va, et il va très vite. Bien, ça, c'est un peu une illustration pour montrer que quand Dieu prend le contrôle, les choses bougent, et là, les choses avancent. Mais voyez, cette durée de 5 ans d'attente, elle n'est pas vaine, parce que c'est le temps qu'il lui faut pour tisser des racines assez puissantes pour qu'il puisse s'élever. S'il n'y avait pas ce temps d'attente, il ne pourrait pas s'élever. Et donc, les 13 ans de Joseph correspondent à ses racines, où il a pu tisser une relation avec Dieu, où il a pu se confier en Dieu, il a appris sur Dieu, sur les hommes, sur la vie. Et maintenant, il était prêt pour être en présence de Pharaon et pour faire tout ce que Dieu avait prévu. Donc, il y a un principe à ne pas oublier. La vie n'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des phases très lentes, très longues, très lentes. Et puis, il y a des phases d'accélération où Dieu prend le contrôle des situations. Alors, on ne doit pas croire que la situation est définitive. Par exemple, quand Joseph était en prison, dans cette phase longue et difficile, il ne devait pas s'entretenir l'esprit en disant « Voilà, ma vie, c'est la prison, je serai toujours en prison, Dieu m'a abandonné », parce que c'était faux. Il devait plutôt s'entretenir l'esprit de la reconnaissance, de la louange et d'entretenir son cœur avec Dieu. Joseph aurait pu se résigner. Je suis en prison, je serai toujours en prison. Mais c'est un piège pour nous de dire, par exemple, je suis malade, ça fait 3 ans que je suis malade, je serai toujours malade. Et on commence à raisonner d'une manière où les choses vont durer toujours. Où je n'ai pas de travail, la situation est dure, je ne trouverai jamais de travail. Et donc, on se contente de ça. Alors, Joseph était dans une situation bloquée en apparence, mais ce n'est pas bloqué pour Dieu. Dieu va débloquer ça et il peut le faire à tout moment. On le voit, Dieu est capable d'accélérer. Par exemple, Jésus a changé de l'eau en vin en quelques instants. Il a multiplié des pains et des poissons instantanément. Donc pour Jésus, ce n'est pas un problème. Dieu a transformé le bâton de Moïse en serpent et ça a duré un instant. Voilà, Dieu peut tout accélérer. Il n'y a pas de limite à Dieu. Et on va terminer avec un dernier point, c'est maintenant Joseph qui garde l'humilité dans ses responsabilités. Il interprète les songes. Ça, c'est un don qu'il avait, il le reconnaît, ça ne vient pas de lui, c'est un don. Et il aurait pu devenir orgueilleux et utiliser son don pour en profiter, pour faire du commerce, par exemple, pour se faire payer. Non ? Il a reçu un don gratuitement, il va donner gratuitement. Et donc, il va interpréter le songe de Pharaon. Et tous ceux qui ont un don, eh bien, ils doivent le mettre au service des autres, au service de Dieu. Un don, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Donc, on doit en faire profiter les autres. Alors, il a donné des conseils au verset 33, vous voyez, je passe au verset 33, toujours dans le chapitre 41. Il dit ceci, mais après avoir interprété le songe, il dit « Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. » Il ne le sait pas, mais il est en train de décrire ce qu'il va faire lui-même. Puisque l'homme intelligent et sage, c'est lui qui va être choisi. Pharaon va le choisir. Joseph a les qualités d'un responsable. Il est capable de comprendre les situations difficiles et de prendre les bonnes décisions. Proverbe 3, verset 5. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Et un petit peu plus loin, au verset 37, il est élevé au rang de premier ministre. C'est-à-dire, c'est lui qui va gouverner l'Égypte. C'est ça, quand vous faites confiance à Dieu, que vous marchez par l'Esprit, c'est lui qui dirige. Parce que Joseph n'aurait jamais ambitionné une telle responsabilité. Mais c'est Pharaon qui l'établit. C'est-à-dire, ce n'est pas Joseph qui a dit « je vais faire ci, je vais faire ça », non. C'est Pharaon qui l'a établi et il reçoit une autorité déléguée. Et c'est là où on voit qu'il est un bon leader, parce qu'il est humble, parce qu'il sait que ce qu'il fait, c'est par la grâce de Dieu. Alors, j'ai remarqué que Joseph a une série d'habits. La première tunique de Joseph, c'était la tunique prophétique, parce que cette tunique prophétique de plusieurs couleurs qu'il avait au tout début par son père, bien, annonçait sa position qu'il aurait par la suite. Ensuite, il a eu la tunique de la soumission, c'est quand il est devenu esclave de Pharaon, il s'est soumis et il a fait tout ce qu'on lui demandait. Mais il a revêtu aussi la tunique de l'accusation quand il a subi les fausses accusations sur sa vie. Et puis, il a connu la tunique de l'humiliation en prison. Et maintenant, il connaît la tunique de l'élévation à la cour de Pharaon. Vous voyez, on connaît des hauts, on connaît des bas. Mais Joseph a été constant dans toute sa vie. En conclusion, à la fin, il va recevoir une nouvelle famille parce que Pharaon va lui donner une épouse. Et il va avoir deux enfants, et ces enfants s'appellent Manassé et Éphraïm. Manassé, ça veut dire oublier, parce qu'il dit « Dieu m'a permis d'oublier mes chagrins », parce qu'il en a eu pendant 13 ans des chagrins. Et puis Éphraïm, ça signifie doublement fécond, parce qu'il dit « Dieu m'a donné l'abondance ». Voilà comment Joseph a évolué, lui qui était esclave, lui qui était seul, maintenant il se retrouve béni, avec une épouse, avec des enfants, et maintenant il peut avancer dans les choses que Dieu a tracées pour sa vie. Alors en conclusion, je retiens trois choses. Premièrement, il y a un temps que Dieu a marqué d'avance. Ça, il faut le comprendre. Si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous tournez en rond, eh bien, il y a un temps qui arrive. Et pendant ce temps, il faut patienter jusqu'à l'intervention de Dieu, qui apportera la solution. Le deuxième élément, c'est que quand Dieu intervient, les choses s'accélèrent. Ce qui paraissait bloqué se débloque. Les portes fermées s'ouvrent. Et puis Dieu fait sauter des étapes parce qu'il fait directement entrer l'esclave hébreu dans la position à la tête du pays. Et puis enfin, troisième élément que je retiens, c'est que nous devons garder l'humilité dans les temps de bénédiction et dans les temps de disette. Parce qu'il y a toujours les deux. Et si nous n'arrivons pas à garder, si par exemple Joseph était devenu orgueilleux dans les temps de bénédiction, eh bien Dieu n'aurait pas pu l'utiliser parce que les temps de bénédiction peuvent même devenir un piège pour certains qui tombent dans l'orgueil, qui se croient au-dessus des autres, alors qu'ils doivent apprendre à rester humbles à la fois quand on est dans la disette, mais à la fois quand on est dans la bénédiction. Voilà les leçons que nous pouvons tirer de la vie de Joseph. On va prier quelques instants. Merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, parce que tu es ce Dieu d'amour qui a un plan pour chacune de nos vies. Nous voulons croire, Seigneur, qu'il y a aussi des temps marqués où tu vas glorifier ton nom dans nos vies, où tu vas permettre des avancées, parce que tu veux pour chacun, Seigneur, que nous puissions te servir, te suivre, faire ta volonté. Je te prie d'encourager mon frère, ma sœur, qui lutte comme Joseph dans ce temps d'attente ou dans ce temps où il prie et il ne voit pas encore ta main agir. Mais Seigneur, nous croyons qu'un temps marqué, le aujourd'hui de cette échanson qui a tout changé dans la vie de Joseph, eh bien, tu permets aussi des interventions surnaturelles, des interventions bénies, où tu permets même des accélérations tout d'un coup. Les choses se débloquent et nous voyons ta main à l'œuvre. Ô Seigneur, viens encore étendre ta main pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges, pour que, Seigneur, ta puissance soit manifestée. Merci, Seigneur, parce que tu restes souverain en toutes choses et nous voulons rester humbles. Seigneur, quelles que soient les circonstances, nous rappeler que ces dons nous viennent de toi, Seigneur, et que c'est toi qui nous qualifies et nous voulons le mettre au service des autres pour être des instruments de bénédiction dans ta maison. Garde-nous de l'orgueil, garde-nous humbles, et garde-nous à ton école, à ton service, dans le nom de Jésus. Amen.